parce que je ne sais pas faire qu'il ne faut pas que je le fasse. Dire oui, même si ça nous paraît insurmontable. Alors c'est le gros point fort de YouSchool, c'est qu'on va faire une semaine d'immersion en anglais.
Bienvenue dans la troisième saison de Altitude, le podcast des facultés de l'Université catholique de Lille qui s'intéresse au parcours des anciens étudiants. Je m'appelle Ismaël Othmani, étudiant en Master 2 de journalisme à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, et aujourd'hui, j'échange avec Eléa Baer. Elle, son parcours commence en 2019 lorsqu'elle intègre un Master en Management de l'Innovation au sein de YouSchool. Désireuse de faire encore plus, en 2020, elle décide de se lancer dans un double Master et intègre un Master en Droit des Affaires à la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Lille. De ses conseils pour réussir un double Master à sa vision de l'entreprise, bienvenue dans le troisième épisode de la troisième saison de Altitude. Bonjour Eléa, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien aujourd'hui.
Bah écoute, merci d'être là pour le troisième épisode de la troisième saison du podcast Altitude. Quand même, c'est un beau chiffre.
Très beau chiffre, les trois.
C'est ça, exactement. Et donc avant de commencer le podcast, on a pour habitude dans cette émission-là de réaliser le CV de l'invité. Alors donc c'est parti, revoyons votre CV ensemble. Et si jamais je me trompe, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors donc nous, on va commencer en 2019, quand vous intégrez en première année de master un management de l'innovation, du design thinking et de management de projet au sein de YouSchool, qui était donc à sa deuxième année de création à l'époque. Et en 2020, alors que vous êtes donc toujours dans ce Master 1 de Management de l'Innovation, vous allez décider de faire un double Master et donc d'intégrer un Master en pratique droit des affaires à la Faculté de Droit de l'Université catholique de Lille. Et donc quand vous allez commencer ce double Master, va commencer un petit peu aussi votre rôle de double casquette. Alors donc entre 2019 et 2022, année à laquelle vous avez terminé votre double Master, vous allez être par exemple stagiaire à Agilipi en recherche documentaire et legal design, donc une entreprise dans les Hauts-de-France. Vous allez toujours rester dans les Hauts-de-France en refaisant un stage à Agilipi en juin 2020, cette fois-ci un peu plus concret en intégration de contrats dans un outil de contact management. Et vous allez enfin réaliser un dernier stage avant d'attaquer votre vie professionnelle au sein de l'entreprise Nomostech, elle aussi dans les Hauts-de-France. Entre mai 2021 et juillet 2021, notamment, vous allez collaborer sur la conception du logiciel, sur la démarche clientèle et legal design. Et ensuite, c'est le début de la vie professionnelle. Vous allez intégrer la startup Moa, qui elle aussi est dans les Hauts-de-France, dans laquelle, justement, on en reviendra plus tard, vous allez aborder cette double casquette-là, parce que vous allez être Customer Success Manager et juriste d'entreprise. Et également, vous allez être chargé de projets innovants et support juridique. Et donc, première question, alors justement, comment se passe cette double responsabilité-là? Et puis globalement, si vous pouvez nous présenter l'entreprise pour laquelle vous travaillez.
Alors, on va commencer par le plus facile, le plus connu, on va dire juriste d'entreprise. Où, globalement, c'est moi qui suis responsable de toute la partie juridique de l'entreprise. Donc, contrat, j'ai également une grosse partie RGPD, donc protection des données personnelles. Et de l'autre, il y a le Customer Success Manager. Donc, s'il faut le traduire en français, on dirait que c'est responsable de la réussite client. Donc, mon rôle, c'est de créer tout un parcours et d'encadrer les clients, de les aider, de les écouter pour derrière que le produit, donc moi, leur convienne le mieux possible.
Donc, justement, on en parlait un petit peu plus tôt. Cette entreprise-là, c'est une start-up. Donc, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet esprit start-up? Parce que c'est vrai qu'on imagine toujours un petit côté bon enfant, jeunes, et puis beaucoup de travail, mais dans une, surtout une bonne ambiance.
Alors, pour la bonne ambiance, oui, c'est quelque chose qui. Il faut savoir que je suis partie vers la start-up, justement, parce que vous voyez en permanence ses collègues en entreprise. Ça peut être un peu compliqué pour l'avoir vécu en cabinet notarial. Ça m'avait un peu refroidi. La start-up, on est proche des dirigeants. Pour la partie travail, on l'a également, puisque, comme tu disais, beaucoup de casquettes, mais c'est qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Justement, être touche-à-tout, bah, ça permet de, dans une entreprise jeune où on n'a pas forcément énormément de moyens, il faut choisir avec parcimonie les personnes qui font partie de l'entreprise, parce qu'on n'est pas nombreux au départ. Donc, il faut que les personnes choisies puissent faire le maximum de choses. Hein. Ça reste une entreprise.
Alors, sur les deux premiers épisodes, c'était la différence. On avait accueilli des gens qui avaient quitté l'Université catholique de Lille depuis un moment. Mais je trouve quand même que la question est intéressante. Alors, ça fait quoi de retourner à l'Université catholique de Lille, de retrouver les studios, de retrouver les classes? Quel a été le sentiment de cette retrouvaille?
Comme vous le présentez, ça fait pas si longtemps que je suis partie, mais c'est un peu avec plaisir quand même que je retrouve cette université que je trouve très très belle. En plus, il y a eu quelques nouveautés pendant mon absence, donc les travaux supplémentaires ont permis de créer des nouvelles choses. Mais oui, avec un peu de nostalgie aussi. J'ai pendant été 6 ans à la Cato, donc je les ai un peu beaucoup parcourus, tous ces couloirs.
Et on aura l'occasion d'en reparler, de ces belles, si belles années. Et justement, en parlant de nouveautés, à l'époque où vous étiez à l'Université catholique de Lille, vous aviez intégré un nouveau projet, on peut dire, le U-School. Donc. Alors, vous allez sûrement mieux l'expliquer que moi, mais pour résumer, l'idée de U-School, c'est donc cette idée-là d'avoir des choix de matière, des choix à la carte un petit peu de notre parcours scolaire. Alors, en gros, est-ce que vous pouvez expliquer comment fonctionne ce nouveau projet et le projet aujourd'hui de U-School?
Alors, quand on rejoint U-School en licence, en effet, on a un programme à la carte, c'est-à-dire il y a des cours U-School obligatoires à suivre et en parallèle, on peut choisir un peu n'importe quel cours des universités catholiques, que ce soit de la médecine, de l'art, du journalisme. Et puis, il y a le master. Moi, j'ai rejoint en master. Le master, c'est un master tourné innovation, tourné avenir, porté sur les soft skills, donc les compétences douces. Donc, contrairement au droit, ce n'est pas connaître la loi, mais c'est plutôt savoir travailler en équipe, conduire le changement, gérer des conflits au sein d'un groupe et porter la prise de parole, par exemple. Et donc, moi, je l'ai rejoint du coup en double master. Donc, j'avais une partie en droit, mais je pense qu'on l'abordera après, et une partie école. Et justement, dans cette école, conduite du changement, on avait des cours un peu particuliers de développement personnel. Donc, des cours de développement personnel, des cours de conduite du changement, de design thinking, de management de l'innovation, puisque c'est le titre de ce master. C'est un master management de l'innovation et design thinking. Donc, design thinking, on pense tout de suite à je conçois une table. Mais c'est plutôt penser design, donc penser utilisateur et comment créer des choses pour répondre à un besoin. Derrière, des cours de management, comment gérer des équipes.
Avant l'arrivée du Covid, vous étiez donc un petit peu à l'origine du projet U-School. En tout cas, vous étiez là un petit peu aux prémices, à la création de ce projet-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça fait de rejoindre un master quand il est encore en pleine construction et en plein développement ?
Bien oui, vu que j'étais seconde promo, donc on avait juste des élèves une année au-dessus de nous. Mais on a beaucoup travaillé ensemble, il faut savoir, avec l'année supérieure. Parce que justement, début d'école, il restait énormément de choses à construire. Et surtout, on était dans un master de design thinking. Et donc, l'école s'est adaptée au design thinking. Il s'est tourné vers les utilisateurs de l'école, donc nous, les élèves, pour créer un produit qui était adapté à nous, à nos besoins et à nos envies. Et donc, on a énormément participé, on a énormément fait de retours justement sur la création, que ce soit juste des retours, des feedbacks positifs, négatifs sur les interventions, sur des cours qu'on aurait aimé avoir ou des cours qu'on a eus. Et parfois même, on nous a fait mettre les mains dans le cambouis en créant carrément les programmes, en imaginant l'école à 5 ans, à 10 ans, comment l'école pouvait répondre justement à des besoins de licence, la licence étant créée l'année d'après, ou encore comment faire la communication de l'école.
Et c'est ça justement, faire la communication de l'école, penser à la création des prochains projets de U-School, c'était ce que vous faisiez en même temps, vous en parliez avant, d'un double master en droit. Alors justement, on peut penser que ça peut être un peu compliqué à gérer, et je pense à nos auditeurs qui ont pour objectif de faire ce que vous avez fait vous. Est-ce que justement c'est compliqué à gérer d'être en même temps dans un nouveau projet qui est très orienté création, design thinking, une nouvelle manière d'apprendre, et en même temps de faire un master à côté, donc un master de droit, très cadré, où on fait du droit comme on en fait depuis toujours. Est-ce que ça a été compliqué un peu de gérer cette ambivalence entre nouvelle scolarité et scolarité traditionnelle ?
Alors, il y a pu avoir des moments, on va dire, compliqués, mais je trouve que les deux se nourrissent très bien l'un de l'autre. Le Master U-School, c'est avant tout tourné vers l'innovation, et l'innovation a cette chance de se retrouver partout, donc y compris en droit. Et donc, tout de suite, on avait une posture en droit qui était très tournée. Comment je peux innover en droit ? Et je pense que le droit est de plus en plus, il innove. De plus en plus, des cabinets d'avocats, par exemple, passent des solutions logicielles, justement, pour être plus performants. Et donc, c'était très intéressant d'avoir à la fois ces hard skills, ces compétences dures en juridique, et ces soft skills en droit. Les deux se nourrissaient très, très bien de l'autre. Et justement, on était très avancés, parce que j'avais plusieurs de mes camarades qui faisaient également du droit en parallèle de U-School. On était très avancés et force de proposition, on va dire, en matière juridique.
Et justement, je pense aux étudiants qui veulent entamer un double master comme vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a une organisation particulière quand on fait un double master ? Comment on le gère ?
C'est très bien géré, pour le coup. En fait, au final, si on parle très simplement ECTS, hein, pour, parce que je pense que ça parlera aux auditeurs. On a des ECTS en moins dans le master Art Skills, donc droit, qui sont remplacés par U-School. Ça veut dire qu'on a des cours en moins, justement, en ayant toujours conscience que les cours de U-School sont prioritaires, parce qu'il s'agit d'ateliers, alors que les cours de droit sont généralement des cours magistraux. Donc c'est quand même relativement adapté. Ça demande un peu de travail supplémentaire, mais ça ne paraît, c'est pas insurmontable et c'est même pas très difficile. C'est-à-dire, ça peut paraître très compliqué de dire « Ah, je vais faire un double master, je ne vais plus dormir la nuit à force de réviser ». Le master de droit, ça reste un master de droit, mais les cours U-School, c'est beaucoup de pratique. Donc je suis notée sur ma pratique, sur mes compétences que je développe durant les cours, et donc ça ne demande pas forcément énormément de travail supplémentaire.
C'est vrai qu'en vous écoutant, c'est même un peu surprenant parce qu'on peut avoir l'impression que faire un double master, c'est double voie, enfin c'est doublement plus de travail. Alors que ce que j'ai l'impression que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que au contraire, le fait d'avoir eu U-School à côté, ça vous a, je vais pas dire motivé, mais en tout cas, ça vous a inspiré à voir le master de droit d'une nouvelle manière.
Pour moi, clairement, ça m'a boosté. Il faut savoir que il y avait certaines choses que j'apprenais du coup à U-School. On va dire, par exemple, on avait des cours de scratchnoting. Le scratchnoting, c'est le fait de faire de la prise de notes sous forme de dessins, de notes. Et ben moi, j'ai pris des cours de droit en scratchnoting et du coup, j'apprenais beaucoup mieux. J'avais quasiment plus besoin de réviser mes cours parce que je me souviens très bien que ben, pour telle législation, j'avais fait ce dessin-là et ça me nourrissait énormément. Et c'était un vrai moteur parce que sur U-School, on apprenait justement des choses plus tard pour la vie professionnelle, mais il y avait des choses également qu'on pouvait directement mettre en pratique dans nos cours de droit, en innovant justement sur ces cours de droit. Donc c'était génial.
Et là, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant que vous parliez de scratchnoting. Alors j'ai déjà sûrement vu ça passer dans les articles, mais pour le coup, je connaissais pas du tout le terme et comment ça marchait. D'autres exemples de manières d'apprendre un petit peu comme ça en innovant? Alors s'il y en a pas, il y en a pas, c'est pas grave. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples de manières un peu plus innovantes d'apprendre?
Bah, plus que d'apprendre, c'est également de comprendre. Il y a cette chose en droit. Il faut savoir que moi, en tant que juriste, il y a un domaine dans lequel le droit et le design thinking se retrouvent, c'est sur ce qu'on appelle le legal design. C'est un mouvement en droit qui, en fait, est le fait de faciliter le droit pour justement les utilisateurs. Donc nous, en tant qu'experts du droit, le but, c'est sous forme de dessin, sous forme de schéma, essayer le plus simplement possible de faire comprendre aux utilisateurs, donc aux non-experts ou aux clients, par exemple, ce qu'on veut dire dans un contrat, ce qu'on veut dire dans un cours. Et notamment, quand on faisait des présentations à l'oral, bah, ça reste des cours hein, en droit, donc des présentations devant les autres élèves. Justement, utiliser le legal design sous forme de dessin, même nous, prendre des notes, faire des schémas, ce genre de choses, dans la facilitation de la compréhension, ça m'est venu par U-School.
En parlant justement de tous les acquis qui vous sont venus par le double master, et pas que par U-School, mais justement par le fait d'avoir cette double casquette-là, j'en parlais un peu plus tôt, vous avez une double casquette donc au quotidien dans votre travail. Alors on va voir un peu tous les aspects de ça, mais déjà, ça a été quoi les enseignements qui vous ont aidé au quotidien après avoir quitté ce double master-là dans votre travail, de savoir que vous êtes capable de gérer deux façons de voir la vie et deux façons de voir le travail?
Exactement. Pour le coup, ma double casquette, elle vient directement de mon double master, c'est-à-dire je garde mes hard skills, mon expertise en droit dans mon côté juriste. Par contre, mon côté du coup responsable relation client, enfin, succès relation client, c'est quasiment que du U-School. Je n'ai jamais été formée à ça. J'ai juste été formée à la gestion de projet chez U-School et à l'animation. Et c'est du coup grâce à mes soft skills que je me suis retrouvée en fait à être en relation client, parce que ayant appris l'animation, ayant appris la résolution de conflits, la prise de parole à l'oral, au final la relation avec la client, elle s'est plutôt bien déroulée, et j'étais pas arrivée au sein de mon entreprise pour ça au départ. Et de fil en aiguille, grâce à ces soft skills de U-School, je me retrouve à ce poste-là aujourd'hui.
Et ça, c'est pour les hard skills, comme vous dites, mais je pense aussi à autre chose. Est-ce que vous avez des petites promos dans votre master U-School?
Exactement, on n'est pas beaucoup pour U-School, surtout qu'on était la seconde promo. Donc on était 5 globalement sur ces 3 années. Et justement, ce qui était très intéressant, c'est qu'on était tous en double master, et donc on est tous d'horizons différents. On était quelques-uns qui venaient du juridique, notamment parce que j'avais fait un peu de promo déjà à l'époque et j'avais ramené quelques connaissances. Mais on avait également des gens qui venaient de management de la culture ou de management international. Donc on avait tous nos spécialités et un peu comme une mini-entreprise, on couvrait les faiblesses des autres par leurs avantages et on apprenait à travailler en groupe avec chacun ses propres connaissances.
Alors justement, est-ce que ça vous a aussi motivé quand vous êtes rentré dans le milieu du travail de se dire je préfère être en petit effectif et avoir plus l'impression d'être au sein d'une famille que d'une grande entreprise?
Exactement. Moi, j'avais en fait quand j'ai commencé à chercher mon alternance, parce que je suis arrivée dans mon entreprise via mon alternance, c'est la dernière année du school qui se fait en alternance. Je cherchais justement à retrouver un peu ce milieu-là où on peut se tutoyer, où on est relativement proches les uns des autres, où chacun a ses propres connaissances, on se trouve pas à parler à d'autres services, mais directement face à des véritables personnes. Et de l'autre côté, c'était grâce au développement personnel que j'ai pu faire, que j'ai découvert grâce à YouSchool, c'était vraiment quelque chose que j'ai découvert et que j'ai vraiment trouvé ça génial. Je cherchais une entreprise dans laquelle je puisse me sentir bien. Me lever le matin par le travail sans sentir un poids, qu'on prenne soin de ma santé mentale, ce genre de choses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée d'ailleurs dans une entreprise qui se soucie du bien-être des salariés.
Cette idée-là d'avoir une petite famille, de bien connaître les gens, est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des contacts avec d'anciens camarades à YouSchool et est-ce qu'ils ont pris la même direction que vous? Est-ce qu'eux aussi ont été influencés par le parcours YouSchool et même leur parcours si eux ont fait des doubles masters pour aller chercher des manières de travailler un peu plus novatrices?
Alors, on se voit très régulièrement, on se voit au moins une fois par mois, donc on a gardé des contacts forts, c'est l'avantage d'être en petite promo, et oui, tous ont gardé, en fait, on était un peu transformés sur YouSchool, donc on a chacun nos connaissances qui viennent de notre master, on va dire, de base sans YouSchool, et on est tous partis, c'est-à-dire maintenant, il y en a plusieurs qui sont en cabinet de conseil, justement, où ils peuvent allier à la fois leurs connaissances hard skills et l'animation, la résolution de conflits, la prise de parole qu'on a pu voir chez YouSchool.
En parlant de toutes ces idées-là de résolution de conflits, de soft skills, moi je pense aussi à votre vision à vous. Est-ce que vous pensez que maintenant le futur des scolarités, le futur des parcours universitaires va beaucoup s'orienter autour de la manière dont YouSchool a géré votre projet? Est-ce que vous pensez que le futur va beaucoup s'orienter sur une manière novatrice d'approcher l'éducation?
Les soft skills, c'est quelque chose qu'on développe forcément au cours de sa vie professionnelle. Le souci, c'est quand on ne le développe pas en cours, on arrive sur le marché du travail avec juste ses connaissances et on se retrouve un peu confronté à une réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande en général de faire des stages tout au long de notre scolarité. C'est pas forcément pour se retrouver face au monde professionnel, mais également pour développer un peu ses soft skills. Donc on les développe forcément au cours de sa vie. Néanmoins, les développer dès justement sa scolarité, c'est tellement plus intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet de nourrir sa propre réflexion, d'acquérir beaucoup plus rapidement une maturité sur son travail et de grandir directement. Donc je pense et c'est le cas d'ailleurs, en tout cas à l'Université catholique de Lille, c'est que de plus en plus, il y a, en tout cas en droit, moi, ce que j'ai pu vivre, il y a cette volonté de faire du management en plus du droit, que ces hard skills, c'est plus suffisant dans le monde d'aujourd'hui. On a un monde qui bouge très très vite et donc qui s'adapte très vite. Et donc nous, en tant qu'individus, il faut être capable de s'adapter très très vite également. Donc je pense que nécessairement, le milieu scolaire, en tout cas, va devoir prendre en compte ces notions-là pour évoluer.
Le milieu scolaire et le milieu du travail aussi, parce que je repense à ce que vous avez dit au début de ce podcast-là, quand vous parliez de scratch noting, mais surtout de comment vous avez utilisé quelque chose de novateur pour du droit, donc une matière qui est globalement très classique. Alors, est-ce que justement, vous pensez que c'est possible de passer par un parcours comme vous l'avez fait, mais de pas forcément s'orienter comme vous vers quelque chose de novateur, une start-up, mais d'aller dans un métier classique, mais en ayant ses acquis-là un peu novateurs?
Ah, tout à fait. Moi, je suis partie vers la start-up parce que c'est un milieu qui me passionne. Mais il y a énormément de choses à faire dans le milieu juridique standard, on va dire. Et surtout, c'est demandé par que ce soit les cabinets d'avocats, les cabinets de notariat, les entreprises, les services juridiques d'entreprise. Cette innovation, elle est demandée de plus en plus chez les jeunes juristes, avocats ou notaires qui arrivent sur le marché du travail, parce qu'ils sont conscients que ce monde qui bouge, il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il y a énormément de mouvements d'avocats qui s'intéressent à tout ce qui est sketchnoting, legal design, pour améliorer leurs services, parce que ça reste dans tous les cas des entreprises, et donc il faut évoluer.
C'est très juste, il faut évoluer. Et je pense aussi, je repense à nos auditeurs qui peut-être avaient pour envie ou pour but, en tout cas, de rejoindre une promotion comme la vôtre. Avant qu'on commence ce podcast, vous me parliez d'un départ, en tout cas d'un voyage, je crois. Alors, j'aimerais bien que vous expliquiez aux auditeurs dans quel cadre peuvent se passer ce genre de webinaire ou de conférence, ou en tout cas, bref, vous allez mieux expliquer que moi. En gros, est-ce que vous pouvez me parler de ce voyage que vous avez réalisé avec YouSchool?
Alors, c'est le gros point fort de YouSchool, c'est qu'une fois par semestre, durant les deux premières années, on va faire une semaine d'immersion en anglais. Donc pour ça, on se déplace un peu. Alors, ça peut être en France, hein, on est allé par exemple dans le Vercors faire de la randonnée en anglais, ou même en Belgique, mais toujours en anglais. Le voyage le plus intéressant, ça a été quand on était parti à Malte pour faire une semaine en anglais. C'était du coup juste avant le Covid, donc c'était une dernière bouffée de liberté. Et c'était génial, on se retrouvait du coup notre petite promo de 5 avec nos encadrants, Karl Blaringhem, pour justement nous accompagner. On a visité l'île de Malte et c'était génial, c'était en février, on s'est éclaté sur place.
Et au quotidien, est-ce que les personnes avec qui vous travaillez, alors vous êtes combien de collaborateurs
On est une dizaine actuellement.
Ok, vous êtes une dizaine. Est-ce que eux ont des parcours globalement semblables aux vôtres? Est-ce que eux aussi ont fait des masters un peu plus novateurs, ou est-ce qu'il y a un peu de tous les profils dans votre startup?
Alors, il faut savoir que, du coup, nous, dans notre entreprise, on est tourné bien net, mais on a notre point de différenciation, c'est qu'on est très, très scientifique. On appuie tout ce qu'on fait sur des méthodes scientifiques. Donc, il faut savoir qu'on est une très, très grosse équipe R&D et que pour la recherche et le développement, il faut savoir qu'on a deux docteurs dans notre équipe. Après être docteur en psychologie et partir en entreprise, c'est pas du tout quelque chose de commun, et souvent on essaye même de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc pour eux en tout cas, ils ont pas un parcours du tout atypique, mais du coup mes deux patrons, les deux chefs d'entreprise Quentin et Valentin, qui ont fondé Moa, pareil, eux, ils sont de Staps au départ, et ils ont commencé de créer des entreprises en parallèle de leurs études, et aussi à l'époque ils étaient un peu mal regardés par les professeurs, étonnamment, et pas très soutenu. Donc je pense qu'on est plusieurs à avoir cette fibre justement de parcours atypique, et c'est peut-être pour ça également on se rapproche, parce que on sait que c'est pas parce qu'on a fait telles études que derrière on est destiné à un poste précis. Et justement, c'est les expériences que nous vivons qui nous permettent d'être agile.
Alors j'y pense, vous qui aviez été étudiante il n'y a pas très longtemps, et surtout on est dans un cadre étudiant, est-ce que vous avez peut-être des conseils pour les étudiants sur comment gérer leur stress en période d'examen ou en transition? Vous qui êtes baigné dans le domaine, quels conseils vous avez pour les étudiants pour que leur santé mentale soit un peu plus apaisée en ces périodes d'examen qui approchent?
Il faut savoir que moi j'étais une très grande stressée avant les galops d'essai et les partiels. J'en étais au point de ne plus dormir la nuit. En fin de master et même fin de licence, à gérer un peu plus ça en lâchant prise, en posant les bonnes questions. Quelles sont les conséquences si je rate? Elles ne sont pas si dramatiques. C'est ce qu'il faut se dire. C'est toujours capable. On est toujours capable de se rattraper. Néanmoins, parce que j'en vois dans ma vie professionnelle, si vraiment il y a des soucis, il ne faut pas non plus hésiter à aller voir un psychologue. Moi, il faut savoir qu'avant de rejoindre mon entreprise, aller voir un psychologue, c'était un gros non. Et en fait, tout le monde devrait aller voir un psychologue, parce que c'est très intéressant. Ça permet, même quelqu'un qui considère qu'il n'a aucun problème, c'est toujours un échange extrêmement intéressant. Donc moi, à l'époque, j'ai toujours un peu cette vision de « Ah non, voir un psychologue, compliqué. » Et en fait, il ne faut vraiment pas hésiter, parce qu'il y a des échanges qui se créent. Ça peut être sur des choses un peu bêtes. Hein. J'ai l'impression d'être pas légitime dans mes études. Je réussis, mais pour moi, j'ai pas le droit de réussir. Donc, syndrome de l'imposteur, ou même je stresse, j'ai le cœur qui bat, je suis anxieuse. C'est des petites choses, et pourtant, parler à quelqu'un, ça peut toujours être bénéfique.
Quel conseil vous avez pour un étudiant qui voudrait se lancer dans un double master, peut-être dans sa manière de s'organiser, dans sa manière d'appréhender le genre de choses qu'il peut préparer déjà en licence avant de rejoindre ce genre de double master? Quel conseil vous avez pour ce futur étudiant qui voudrait intégrer un double master?
Déjà, c'est de ne pas avoir peur, parce que souvent, les personnes qui décident de faire ça, c'est soit pour se différencier plus tard sur le marché du travail, soit pour se challenger. Et au-delà de ça, c'est plutôt pour tout étudiant, quel que soit le master, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire dire oui, même si ça nous paraît insurmontable, si ça nous paraît compliqué. Au final, petit à petit, ça se fait, et c'est toujours bénéfique derrière.
Est-ce que vous, c'est un petit peu la manière avec laquelle vous approchez la vie maintenant et la vie professionnelle, de sortir de sa zone de confort?
C'est grâce à YouSchool que j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Moi, je reste juriste au départ, donc c'était, il y a un peu des cases, il faut respecter ces cases. Et en fait, justement, à travers les différents cours qu'on a à YouSchool, on nous apprend à sortir de sa zone de confort. C'est pas parce que je ne sais pas faire qu'il ne faut pas que je le fasse. On apprend sur le tas, mais on apprend quand même. Et ouais, de toujours dire oui, et il y a des choses géniales qui sortent en fait en sortant de sa zone de confort. Et surtout, plus on sort de sa zone de confort, et plus celle-ci, elle s'agrandit. Et on se rend compte qu'on peut faire des choses géniales, dont parler ce soir lors de ce podcast.
Je crois qu'il y a une expression qui dit c'est les plus belles choses se trouvent souvent de l'autre côté de la peur. Merci de nous avoir rejoints pour ce troisième épisode-là. Je trouve ça très intéressant, tout ce que vous avez expliqué sur sortir de sa zone de confort, sur la façon de voir les choses, de ne pas avoir peur et de parler de la santé mentale des jeunes. Je trouvais ça vraiment, pour le coup, très passionnant.
Exactement. Sortir des zones de confort, c'est un peu devenu mon mantra de vie. Moi qui, au départ, étais énormément stressée, très timide. Au final, on fait vraiment des choses géniales en sortant des zones de confort.
Merci beaucoup, Léa.
Merci.
Et quant à nous, on se donne rendez-vous en janvier pour le quatrième épisode de Altitude.